Chapitre 2. Le lieutenant d'Aulnay Pradelle, homme décidé, sauvage et primitif, courait sur le champ de bataille en direction des lignes ennemies avec une détermination de taureau. C'était impressionnant, cette manière de n'avoir peur de rien. En réalité, il n'y avait pas beaucoup de courage là-dedans, moins qu'on pourrait croire. Ce n'était pas qu'il fût spécialement héroïque, mais il avait acquis très vite la conviction qu'il ne mourrait pas ici. Il en était certain, cette guerre n'était pas destinée à le tuer, mais à lui offrir des opportunités. Dans cette soudaine attaque de la côte 113, sa détermination féroce tenait bien sûr à ce qu'il haïssait les Allemands au-delà de toute limite, de manière quasiment métaphysique, mais aussi au fait qu'on s'acheminait vers l'issue et qu'il lui restait très peu de temps pour profiter des chances qu'un conflit comme celui-ci, exemplaire, pouvait prodiguer à un homme comme lui. Albert et les autres soldats l'avaient pressenti, ce type avait tout du hobereau versant lessivé. Au cours des trois générations précédentes, les Aulnay Pradelle avaient été littéralement nettoyés par une suite de déroutes boursières et de déconfitures. De l'ancienne gloire de ses ancêtres, il n'avait conservé que la Salvière, la demeure de la famille, en ruine, le prestige de son nom, un ou deux descendants très éloignés, quelques relations incertaines et une avidité à retrouver une place dans le monde qui frisait la fureur. Il vivait la précarité de sa situation comme une injustice et regagner son rang dans l'échelle de l'aristocratie était son ambition fondamentale, une véritable obsession à laquelle il était prêt à tout sacrifier. Son père s'était tiré une balle dans le cœur dans un hôtel de province après avoir claqué tout ce qui restait. La légende soutenait sans fondement que sa mère, morte un an plus tard, avait succombé au chagrin. Sans frère ni sœur, le lieutenant se trouvait être le dernier Aulnay Pradelle et ce contexte fin de race lui procurait un vif sentiment d'urgence. Après lui, rien. L'interminable déchéance de son père l'avait convaincu très tôt que la refondation de la famille reposait sur ses seules épaules et il était certain de disposer de la volonté et du talent nécessaires pour y parvenir. Ajoutez à cela qu'il était assez beau. Il fallait aimer les beautés sans imagination, bien sûr, mais tout de même, les femmes le désiraient, les hommes le jalousaient, ce sont des signes qui ne trompent pas. N'importe qui vous dirait qu'à un physique pareil et à un nom pareil, il ne manquait que la fortune. C'était exactement son avis et même son unique projet. On comprend mieux pourquoi il s'était donné un mal de chien pour organiser cette charge que le général Morieux désirait si ardemment. Pour l'état-major, c'était une verrue, cette côte 113, un petit point minuscule sur la carte qui vous narguait jour après jour, le genre de truc qu'on prend en grippe, c'est plus fort que vous. Le lieutenant Pradelle n'était pas sujet à ce genre de fixation, mais lui aussi la désirait, cette côte 113, parce qu'il était en bas de la pile du commandement, qu'on arrivait à la fin et que, dans quelques semaines, il serait trop tard pour se distinguer. Déjà, lieutenant en 3 ans, ça n'était pas mal, là-dessus un coup d'éclat et l'affaire serait entendue, capitaine à la démobilisation. Pradelle était assez content de lui. Pour motiver ses hommes à se lancer dans la conquête de la côte 113, les persuader que les Boches venaient de trucider de sang-froid deux de leurs camarades, c'était la certitude de déclencher chez eux une belle colère vengeresse, un vrai coup de génie. Après avoir lancé l'attaque, il avait confié à un adjudant le soin de conduire la première charge. Lui était resté légèrement en retrait, une bricole à régler avant de rejoindre le gros de l'unité, après quoi il pourrait remonter vers les lignes ennemies, dépasser tout le monde de sa grande foulée sportive et aérienne et arriver dans les premiers pour dézinguer du Boche autant qu'il plairait à Dieu de lui en offrir. Dès son premier coup de sifflet, quand les hommes avaient commencé à charger, il s'était placé à bonne distance, sur la droite, afin d'empêcher les soldats de dériver dans la mauvaise direction. Son sang n'avait fait qu'un tour lorsqu'il avait vu ce type, comment s'appelle-t-il déjà, un gars avec un visage triste et de ses yeux, on dirait toujours qu'il va se mettre à pleurer, Maillard, c'est ça, s'arrêter là-bas, sur la droite, à se demander comment, sorti du boyau, il avait pu arriver jusque-là, ce con. Pradel l'avait vu s'immobiliser, revenir sur ses pas, s'agenouiller, intriguer et repousser le corps du vieux grisonnier. Or, ce corps-là, Pradel l'avait à l'œil depuis le début de l'attaque parce qu'il devait absolument s'en occuper et le plus vite possible le faire disparaître. C'était même pour cette raison qu'il était resté en serre-fil sur la gauche, pour être tranquille. Et voilà ce con de soldat qui s'arrête en pleine course et regarde les deux cadavres, le vieux et le jeune. Pradel a aussitôt foncé, un taureau, je vous dis. Albert Maillard s'était déjà relevé, il avait l'air secoué par sa découverte. Quand il a vu Pradel fondre sur lui, il a compris ce qui allait lui arriver et il a tenté de s'enfuir, mais sa peur était moins efficace que la colère de son lieutenant. Le temps de réaliser, Pradel était sur lui, un coup d'épaule dans le buffet, et le soldat a chuté dans un trou d'obus et roulé jusqu'au fond. Bon, ça n'est que 2 mètres, tout au plus. Pour en ressortir, ça ne sera pas facile. Va falloir de l'énergie. D'ici là, Pradel aura réglé le problème. Et après, il n'y aura plus rien à dire, vu qu'il n'y aura plus de problème. Pradel reste au bord du vase et regarde le soldat tout au fond. Il hésite sur la solution à adopter, puis se sent tranquillisé parce qu'il sait disposer du temps nécessaire. Il reviendra plus tard, il se détourne, recule de quelques mètres. Le vieux grisonnier est couché sur le dos, l'air têtu. L'avantage de la situation nouvelle, c'était que Maillard, en le retournant, l'a rapproché du corps du jeune Louis Thérieux, ça facilite la tâche. Pradel jette un œil alentour pour vérifier que personne ne l'observe. L'occasion d'un constat, quel carnage! C'est là qu'on se rend compte que cette attaque aura quand même coûté sacrément cher en effectif. Mais c'est la guerre et il n'est pas là pour philosopher. Le lieutenant Pradel dégoupille sa grenade offensive et la cale posément entre les deux cadavres. Le temps de s'éloigner d'une 30 mètres et de se mettre à l'abri, les mains sur les oreilles, il perçoit la détonation qui pulvérise le corps des 2 soldats morts. 2 morts de moins dans la Grande Guerre et 2 disparus de plus. Maintenant, il doit aller s'occuper de ce con de soldat là-bas, dans son trou. Pradel sort sa 2de grenade. Il s'y connaît. Il y a 2 mois, il a regroupé 15 boches qui venaient de se rendre. Il les a mis en rond. Les prisonniers s'interrogeaient du regard. Personne ne comprenait. D'un geste, il a balancé 1 grenade au milieu du cercle, 2 secondes avant l'explosion. 1 travail d'expert. 4 années d'expérience du lancer franc. Une précision, je vous dis pas. Le temps que les types se rendent compte de ce qui leur arrivait dans les pattes, ils étaient direct en partance pour le Valhalla. Vont pouvoir tripoter les Valkyries, ces enfoirés. C'était sa dernière grenade. Après, il n'y aura plus rien à balancer dans les tranchées boches, c'est dommage, mais tant pis. À l'instant même, un obus explose, une immense gerbe de terre s'élève et s'effondre. Pradel se soulève pour mieux voir. Le trou est entièrement recouvert, pile poil. Le type est en dessous. Quel con! L'avantage pour Pradel, c'est qu'il a économisé 1 grenade offensive. De nouveau impatient, il se met à courir en direction des premières lignes. Allez, il est urgent d'aller s'expliquer avec les Boches. On va leur faire un beau cadeau d'adieu.